Vous écoutez les podcasts de CAN, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
J'ai le plaisir d'avoir en ligne Nathanaël Drey du cabinet expert comptable Drey & Drey. Alors, on avait déjà reçu dans nos studios sur un sujet spécial Airbnb. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose qui nous intéresse, puisqu'on va parler de quelque chose qui va faire plaisir à tout le monde en Israël, la hausse des impôts. Bonsoir Nathanaël.
Bonsoir.
Bon, alors c'est un sujet agréable sur lequel je vous ai demandé d'intervenir parce que c'est un sujet qui n'est pas très agréable effectivement, mais qui intéresse tout le monde forcément.
Alors, déjà, je mets une petite parenthèse. C'est pas tous les éléments qu'on va aborder très prochainement ne sont pas encore des éléments actés.
Okay.
La seule chose qui est actée, on va rentrer un petit peu plus dans le détail par la suite, c'est qu'aujourd'hui, Israël doit augmenter les impôts, doit trouver des sources de financement différentes, de nouvelles sources de financement.
Ouais.
Et il y a plusieurs canaux qui vont être exploités ou qui sont pour l'instant à l'étude par l'administration fiscale israélienne.
Alors, on peut avant justement de parler de ce qui va augmenter, comment, etc., on peut expliquer un petit peu pourquoi justement ça augmente ?
Oui, alors, on est dans un pays où la situation sécuritaire est pour le moins tendue, avec la situation, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe aux diverses frontières, sans rentrer maintenant dans un débat politique. Il se trouve que le budget sécuritaire de l'État est très connu pour être l'un des postes de dépenses les plus importants.
Uh-huh.
Donc la situation économique actuelle fait que ça va pas aller en s'arrangeant. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est les deux journées d'élection qu'on a eues sur l'année 2019 qui coûtent très cher au gouvernement israélien. On parle il y a déjà les troisièmes élections qui sont prévues pour le 2 mars 2020. Il faut savoir que chaque jour d'élection coûte extrêmement cher à l'administration. Là, on est par exemple sur le déficit de l'année 2019. Alors, on n'a pas les chiffres jusqu'à la fin de l'année parce qu'on est début janvier et les chiffres ne sont pas encore complètement bouclés. Mais on était déjà à fin novembre sur une hausse de 6,1% des dépenses par rapport à 2018.
Ces journées d'élection là, trois élections, on arrive à la troisième élection sur une année. Combien ça coûte tout ça?
Au bas mot, on peut partir sur un budget d'à peu près 5 milliards de shekels par jour.
Par jour d'élection.
Oui,
par
journée d'élection.
Ouais, ce qui explique certainement très rapidement pourquoi on a une hausse des impôts aussi. C'est pas la seule raison, mais à mon avis, ça a un impact quand même réel. Ouais.
C'est pas la seule raison, mais il faut savoir que ça a creusé le déficit dans le budget prévisionnel de l'État. Le déficit prévu sur 2019 était d'augmenter les dépenses par rapport au budget d'à peu près 40 milliards de shekels sur 2019. Le déficit a été largement, le budget prévisionnel était largement dépassé.
Ouais.
Ce qui fait qu'aujourd'hui l'État doit combler, doit trouver des sources de revenus supplémentaires.
Alors quand vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas acté, ça veut dire que globalement on s'attend à ce que ça le soit quand ?
Ça va dépendre du levier que souhaitent actionner les impôts. Il faut savoir, on va rentrer dans une toute petite définition dans quelques secondes sur les différents types d'impôts qui peuvent être activés. Chaque type ou chaque levier va donc s'actionner dans une période différente.
Mm-hmm.
On ne peut pas dire exactement quand les éléments vont être actés. Il faut aussi savoir que, et ça j'en ai parlé avec le second au bureau des impôts en Israël, qui s'appelle Roland Amselet, aujourd'hui le fait de ne pas avoir de Knesset depuis plusieurs mois maintenant, ça bloque complètement l'administration fiscale. S'ils veulent entreprendre des démarches, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour faire passer de nouvelles lois. Ce qui peut nous pousser à penser qu'aujourd'hui, avant le 2 mars, il n'y aura pas de nouveaux changements significatifs. Mais ça va aussi nous indiquer que juste après les élections, et en admettant qu'une Knesset soit enfin réunie, ça peut bouger pas mal au niveau de l'administration.
Ça veut dire que donc pour l'instant, on sait que les impôts vont augmenter. On sait aussi que le gouvernement, enfin, si on espère qu'il y en ait un qui se forme enfin, va commencer en fait son mandat avec une très mauvaise annonce, parce que ça va être une augmentation des impôts directs comme une des premières mesures.
Oui, il faut savoir que l'augmentation des impôts, elle peut être parfois bien perçue par certains publics. On va voir les différents leviers. L'augmentation des impôts, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Parfois, il y a des démarches qui ont été entreprises par l'administration fiscale israélienne qui ont été des démarches très positives, qui ont effectivement augmenté et agrandi les caisses de l'État, mais qui n'étaient pas une démarche négativement perçue par le contribuable.
Mmh. Oui, alors
c'est pas nécessairement, d'un point de vue politique, c'est pas nécessairement un mur que va rencontrer la nouvelle Knesset si...
Elle arrive à venir. Bon, ok, on le souhaite en tout cas. Est-ce qu'on peut entrer dans le détail? Qu'est-ce qui va augmenter exactement? Ou alors en tout cas, c'est quoi l'existant et qu'est-ce qui va changer?
Bon, alors il n'y a pas de problème. Déjà, il faut savoir un tout petit rappel sur le type d'impôt existant. En Israël, il y a deux types d'impôts, de type d'imposition. Ça va dépendre d'abord de la source de revenus. Est-ce que c'est un revenu qui est considéré comme un revenu actif? Donc dans cette catégorie, on va mettre le salaire ou bien les revenus en tant que Atsmaï, d'accord, en tant qu'indépendant. Ça, c'est des revenus pour lesquels le contribuable va devoir travailler et c'est catégorisé dans la catégorie des revenus actifs. Il y a parallèlement les revenus qui sont des revenus passifs, qui, eux, correspondent plutôt à des loyers, des dividendes, des intérêts, tout ce type de paiements que le contribuable va recevoir. En étant totalement passif, entre guillemets, il suffit que la journée passe pour qu'il puisse s'enrichir. Mmh. Ok. Donc, dans la catégorie des revenus actifs, aujourd'hui, on constate principalement deux types de revenus. Il y a l'impôt sur le revenu pour le particulier, d'accord, ça, ce qui s'appelle le Mass Hakhnasa, l'impôt sur le revenu. Et là, on est sur une tranche imposition par tranche, d'accord, comme en France, une imposition progressive. Chaque tranche étant soumise à un palier bien défini. Et on a l'autre type d'impôt sur le revenu qui concerne là les sociétés. Là, on est sur de l'impôt sur les sociétés où le taux de l'imposition pour les sociétés en Israël sur 2020, pour le moment, a été reconduit à 23%. Voilà. Après, dans la catégorie des revenus passifs, on va avoir l'impôt sur les dividendes, sur les revenus locatifs. Voilà principalement les taux d'imposition. Après, on a les impôts indirects. Ça, c'est du plus connu, la douane, la TVA, les taxes sur les acquisitions, par exemple, quand vous achetez un appartement ou autre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impôt indirect. Voilà, dans les grandes lignes, les catégories d'impôts existantes en Israël.
Ok, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Alors, c'est ces différents leviers que va essayer d'actionner l'administration fiscale israélienne. Donc les postes qui risquent de subir une augmentation, on va avoir deux types de méthodes qui peuvent être utilisées par l'administration fiscale israélienne. La méthode positive ou la méthode négative. Alors on va commencer par la méthode négative. La méthode négative, ça peut impliquer l'augmentation qui va par contre là être perçue comme une mauvaise augmentation par le contribuable. Dans ce secteur, on peut ranger par exemple, on peut classer une augmentation de la TVA. Ouais, savoir que la TVA jusqu'à 2015, elle était à 18%. Grâce à certaines démarches entreprises par l'administration fiscale, les caisses de l'État se sont remplies. Et pour en faire partager et bénéficier le maximum de monde, ils ont baissé la TVA à 17%. Rien n'empêche qu'ils remettent la TVA à 18%, voire 20% comme en France.
Ouais.
D'accord. On peut avoir aussi l'augmentation de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés aujourd'hui, il est à 23%. C'est faible.
Mais c'est fait par rapport à la France, hein, il me semble.
La France est à 28%. Ouais. Aujourd'hui, elle était à 33,33% jusqu'à il y a très peu de temps, un an et demi si je ne me trompe pas. Il faut savoir qu'en Israël, historiquement, le taux d'imposition a déjà été de 36%.
Ah ouais.
Alors, on ne remontera pas à ce taux-là. Il faut savoir aussi que l'augmentation, on parlait tout à l'heure des enjeux politiques, augmenter les sociétés, c'est plutôt bien vu par le grand public. Les sociétés, c'est les riches, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est à eux de payer. Donc augmenter l'impôt sur les sociétés, techniquement, ce sera plutôt bien vu. Donc ça peut être un canal qui va être actionné assez facilement. Et l'impôt étant relativement faible, 23%, c'est pas beaucoup. On peut compter. Il y a de la marge. On peut penser 26-28% facilement.
D'accord.
Après, on peut augmenter l'imposition sur l'impôt sur le revenu, donc les fameuses tranches d'imposition comme on a mentionné tout à l'heure. Ça, j'y crois un peu moins. Parce que au niveau politique, ça va toucher tout le monde, les salariés, les indépendants, vraiment tous les contribuables en Israël.
Ouais, alors qu'on se plaint déjà d'une augmentation des prix, du coût de la vie.
Voilà, ça, ouais. le pouvoir d'achat en Israël étant ce qu'il est, je vois pas un politicien suffisamment armé pour aujourd'hui, au vu de la Knesset actuelle, ouais, pour aller toucher l'imposition sur le revenu. Mais voilà, c'est un des...
C'est pas
des
impossible.
C'est pas impossible. Il faut savoir qu'en Israël, il y a une sorte de taxe exceptionnelle qui s'appelle en hébreu le Mas Yesef, ne pas confondre avec l'ISF, hein, okay, mais c'est l'imposition, c'est un taux exceptionnel pour les personnes qui gagnent plus que 650 000 shekels dans l'année brut.
Okay.
D'accord, ces personnes-là sont taxées de 3% supplémentaires. Sur cette tranche-là, on peut facilement entrevoir que soit la tranche va être rabaissée à 500 000, 550 000 par exemple, soit le taux va être augmenté. Historiquement, il était à 2%, cette taxe exceptionnelle, elle a été augmentée à 3%. Ils peuvent facilement la faire passer à 5%.
Ouais, soit on élargira le nombre de personnes qui payent, soit on leur on fera payer plus, voire les deux même.
Soit
hein,
les deux.
Ouais, voire les deux, exactement.
C'est ça. Après, il y a aussi dans les démarches négatives, hein, j'appelle ça négatif parce que c'est vraiment pour le coup une augmentation sans aucune valeur ajoutée. Israël a récemment fait passer une loi qui s'appelle les Revachim Klouim, c'est-à-dire les réserves non distribuées par les grandes sociétés. Il faut savoir qu'une société, quand elle a un exercice fiscal, elle termine son année, elle va payer son impôt sur les sociétés. Donc pour l'instant, on l'a dit, c'est 23%. Mmh. Et avec le bénéfice net restant, elle a le choix soit de le distribuer aux actionnaires, à ce moment-là, il y a un impôt sur le dividende, soit de le réinvestir dans sa société, soit de le garder. Mmh. D'accord ? La société peut avoir des réserves. Pour l'administration fiscale israélienne peut obliger certaines sociétés à distribuer les réserves aux actionnaires et de ce fait entraîner mécaniquement une imposition sur le dividende.
Même si stratégiquement c'est pas forcément ce que veut la société.
Exactement.
D'accord.
Ça ne répond pas. Alors bien évidemment ils vont pas l'actionner facilement parce que ça va toucher la liberté d'exercice au niveau des sociétés. Donc ils peuvent pas le faire facilement, mais ça a déjà été fait. Et ça peut faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État facilement. L'impôt sur le dividende est quand même à 30%. Ça peut être un des canaux qui sera favorisé. En plus, là, pour le coup, on touche que les sociétés qui gagnent beaucoup d'argent.
Nathaniel, est-ce que quand j'entends comme ça l'ensemble des taxations, des impositions, etc., est-ce qu'on considère qu'Israël a un État... comment on considère la façon dont l'État impose la société ici? Est-ce que c'est une grosse imposition par rapport à d'autres sociétés équivalentes, on va dire, occidentales? Est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est normal?
Non, c'est relativement faible comme taux d'imposition. Alors bien évidemment, on n'est pas au taux d'imposition du Luxembourg ou de quelques pays offshore, mais on est parmi les pays qui imposent le moins au niveau de l'OCDE. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parallèlement à ça, il ne faut pas oublier qu'Israël est le pays classé 7e sur le nombre d'heures hebdomadaires travaillées.
C'est-à-dire en nombre d'heures travaillées.
Un Israélien et voilà dans tous les pays de l'OCDE, en Israël, c'est le pays qui travaille le plus. Il est en 7e position.
Ok.
Parmi les pays qui travaillent le plus, on est sur 42 heures en moyenne. Il faut savoir qu'en Hollande, qui est le pays qui travaille le moins, c'est 29 heures par semaine.
D'accord. Donc, est-ce que ça paye de travailler plus?
ça paye. Le pouvoir d'achat étant ce qu'il est, je pense qu'aujourd'hui les taxes peuvent être relativement faibles parce que le volume d'imposition est nécessairement plus grand.
Ouais.
D'accord ? Si les gens travaillaient moins,
il y aurait plus d'imposition.
Ils gagneraient moins, donc il y aurait plus d'imposition pour faire rentrer la même somme dans les caisses de l'État.
Ok. Alors, pour terminer, on a parlé d'un point avant de commencer cet entretien. Vous m'avez aussi fait part du fait qu'il y avait une nouvelle réglementation pour ce qu'on appelle l'économie partagée.
Oui, alors, une des démarches qui est déjà à l'étude, il y a plus ou moins quelques sujets qui sont déjà, on va dire, dans les starting blocks de l'administration fiscale, il y a l'augmentation du nombre de contrôles, d'accord ? Ça va pas y couper quand les caisses de l'État veulent aujourd'hui remplir et aller chercher de l'impôt. Il faut s'attendre à une vague de contrôles fiscaux supplémentaires. Il y a eu 24 000 lettres qui ont été envoyées au mois d'août à certains contribuables qui répondaient à quelques critères, notamment s'ils ne travaillent pas, s'ils voyagent souvent à l'étranger, s'ils ont beaucoup d'appartements, s'ils ont de grosses voitures, Voilà, ces gens-là sont rentrés, on va dire, un petit peu dans le viseur de l'administration fiscale israélienne. Ils ont reçu beaucoup des courriers pour rendre des comptes à l'administration fiscale.
Donc renforcement des contrôles, on va vraiment chercher l'argent, quoi.
Voilà, on va chercher l'argent, on va aller essayer d'élargir le filet pour reprendre les propos du directeur de l'administration fiscale israélienne. Ouais. La deuxième chose, c'est de, un petit peu comme en France, de rendre l'obligation de déclaration fiscale pour tout le monde. D'accord? Donc, c'est-à-dire que toute personne aujourd'hui devra rendre une déclaration fiscale annuelle. Savoir qu'aujourd'hui, un salarié en Israël n'a pas cette obligation. Par conséquent, il peut-être parfois, ça va nous permettre de rebondir sur le troisième sujet qui est l'économie partagée, ça peut parfois arrondir un petit peu les fins de mois sans avoir peur, de toute façon, je ne déclare pas mes revenus.
C'est-à-dire, pourquoi parce que comme c'est prélevé à la source, il n'y a pas d'obligation.
Voilà. Okay. Exactement, l'impôt en Israël est prélevé directement sur le salaire et un salarié qui répond, qui gagne moins que 650 000 shekels à l'année n'a pas d'obligation de remettre une déclaration fiscale annuelle. Le troisième sujet, et ça pour le coup c'est vraiment à l'étude dans une position très avancée, c'est tout ce qu'on appelle dans le jargon professionnel l'économie partagée, Airbnb, Uber, Fiverr, tous ces canaux qui permettent aujourd'hui de générer des revenus de manière totalement parallèle, de manière commerciale et qui va concerner directement les particuliers. Ouais. Toute cette économie partagée, elle a un défaut de régulation. Et aujourd'hui, l'État s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher dans cette économie qui s'est créée. Et il peut y avoir beaucoup de nouvelles règles qui vont sortir dans ce secteur.
Donc ça y est, ouais, voilà, c'est on va dire que le temps où on faisait à peu près ce qu'on voulait est terminé. Là, l'État va taxer sur. C'est des domaines où les gens font facilement, et c'est pour ça que maintenant la déclaration va être obligatoire. On va être censé en tout cas déclarer ses revenus Airbnb ou Fiverr ou Uber, effectivement.
Par exemple, si jamais l'obligation de déclaration fiscale ne sera pas élargie à tout le monde, le fait d'obliger toutes les personnes ayant une sorte d'activité secondaire commerciale comme Uber, Airbnb, etc., eux, on va les obliger à déclarer. Et aujourd'hui, ça concerne beaucoup de monde. Mmh. Et normalement, d'ici quelques années, on aura quasiment 100% des personnes qui vont devoir rendre une déclaration fiscale annuellement en Israël.
Et on a une idée déjà de ce que ça pourrait être comme type d'imposition ?
Il n'y a pas d'idée bien précise. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait être une imposition simplifiée, aussi bien la manière de le déclarer que le type d'impôts qui vont être levés sur ce type de revenus. Airbnb, je fais une petite parenthèse, en règle générale, il n'y a pas d'impôt puisque le bénéfice fiscal, en tout cas, qui est dégagé par l'activité d'Airbnb, est souvent proche de zéro, voire négatif. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses pour avoir un appartement sur Airbnb. Ça coûte cher. Je parle ici des dépenses courantes, hein, l'argent, l'électricité, qui reste à la charge du propriétaire. Uber, donc tout ce qui est activité de transport, là aussi, il faut savoir qu'on va pouvoir faire passer des dépenses comme l'amortissement du véhicule, l'essence, les assurances, l'entretien, etc. Donc ça aussi, c'est pas censé amener un bénéfice fort. Par contre, tout ce qui va être activité de service, comme Fiverr, le fait de développer depuis son domicile des applications, d'écrire du contenu rémunéré, etc. Ça, c'est du service. Il y a très peu de coûts. Et pour le coup, ça peut permettre de lever beaucoup d'impôts et de créer un vrai bénéfice.
Ok. Bon, là, on a un peu exposé le pitch, hein, on va dire. Maintenant, il va falloir attendre mars, en tout cas dans ces eaux-là, pour en savoir plus et pour savoir comment ça va être acté, c'est ça ?
Voilà, les nouvelles tranches d'imposition pour l'année 2020 ont été publiées vendredi, donc vraiment début janvier. Donc on peut déjà savoir à quoi s'attendre et on voit que les tranches n'ont pas été augmentées, l'impôt sur les sociétés n'a pas encore été touché, ce qui indique clairement qu'ils attendent à mon avis les prochaines élections avant d'entreprendre de vraies démarches. Chaque parti pourra actionner Les leviers qui s'imposent.
Et encore, j'ai dit mars si c'est la bonne cette fois, quoi, effectivement.
Oui, ouais. Et ça. Mais c'est pas dans cette émission
on en parlera. Nathaniel, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et on se reparle bientôt sur un autre sujet, je l'espère.
Ça marche, avec un grand plaisir.
Au revoir.
Et bonne soirée, à bientôt. Au revoir.